Ce matin, nous allons regarder un texte qui se trouve dans l'Apocalypse. Et le titre de mon message, c'est « Garder la parole ». Garder la parole. Et pour cela, nous allons lire donc ce texte, Apocalypse chapitre 22, versets 6 à 21. Apocalypse 22, versets 6 à 21. Donc je lis dans la traduction NBS, Nouvelle Bible Seconde. Il me dit, ces paroles sont certaines et vraies. Le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs, ses esclaves, ce qui doit arriver bientôt. Je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Quand j'ai entendu et vu, je suis tombé aux pieds de l'ange qui me les montrait pour me prosterner devant lui. Mais il me dit, garde-toi de faire cela. Je ne suis que ton compagnon d'esclavage et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Prosterne-toi devant Dieu. Puis il me dit, ne tiens pas secrètes les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est sale se salisse encore, que le juste fasse encore la justice, et que celui qui est saint soit encore consacré. Je viens bientôt, j'apporte avec moi ma récompense, pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, c'est moi. Heureux ceux qui lavent leurs robes pour avoir droit à l'arbre de la vie et pour entrer par les portes dans la ville. Dehors, les chiens, les sorciers, les prostituées, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et fait le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous apporter ce témoignage au sujet des églises. C'est moi qui suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile resplendissante du matin, l'esprit de la mariée, et la mariée disent « Viens ». Que celui qui entend dise « Viens ». Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Moi, je l'atteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche, des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. » Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Voilà, jusque-là, la lecture de la parole de Dieu, un texte incroyablement puissant. Je dirais, pour un auditeur du 21e siècle, choquant même, parce que c'est direct, c'est puissant. Pour nous qui sommes chrétiens, peut-être, qui avons lu, peut-être et relu ce texte-là, nous n'imaginons pas la puissance... La puissance de feu spirituel que ce texte a, puisqu'il parle de la venue de Jésus qui mettra toutes choses en vérité et en jugement et qui nous met aussi en demeure de nous positionner par rapport à ça. L'esprit et la mariée disent « Viens », donc il y a un lien entre l'esprit qui inspire Jean pour écrire ce texte-là. La mariée, vous savez qui c'est, la mariée c'est l'épouse du Christ, c'est-à-dire c'est son Église. Et donc nous sommes interpellés en tant qu'Église à bien entendre cette parole qui est avant tout, au-delà des mots puissants qui sont mentionnés là, qui font le distinguo entre pécheur et justifié, entre pécheur non gracié et pécheur gracié, bien au-delà de cette clarté, de cette distinction entre ces personnes-là, on voit donc que ce texte-là, la prophétie, cette parole inspirée que Jean a reçue de la part du Seigneur, a pour but, avant toute chose, de nous remplir de foi, puisqu'il est dit dès le début, ces paroles sont certaines et vraies, verset 7, « Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre, heureux. » Alors ça rappelle le serment sur la montagne, les béatitudes, « Heureux les pauvres en esprit, ils hériteront le royaume de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui pratiquent la miséricorde, ils recevront la miséricorde. » Donc, au-delà de ce que nous pouvons penser, de ce que nous pourrions attendre du Seigneur, ce que Dieu veut, c'est que c'est notre bonheur, et notre bonheur découle de notre fidélité à sa parole, du fait que nous allons ou non garder la parole de Dieu. Malheureusement, nous connaissons beaucoup de chrétiens, pour ceux qui ont peut-être 20, 30, 40, 50 ans de vie chrétienne, connaissons malheureusement parfois des chrétiens qui ont bien commencé et qui ont mal fini. Ça pose des questions, ça interpelle. Alors bon, chacun y va de son explication, oui mais ils n'étaient pas vraiment chrétiens, oui mais ceci, mais cela, bon. Mais l'Écriture nous demande de persévérer. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il y a une persévérance à avoir. Bien sûr que cette persévérance nous est donnée par la grâce de Dieu. Mais le Seigneur nous appelle à la persévérance. Et la persévérance, c'est la fidélité. Et quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui garde. Garder ma parole. C'est là la parole que le Seigneur nous donne ce matin, ce conseil, cet avertissement aussi. Le Seigneur sonne de la trompette et nous dit « Gardez ma parole fidèlement ». Mais garder, ce n'est pas simplement la retenir dans sa tête, c'est bien sûr la garder au fond de son cœur, c'est la vivre, c'est la pratiquer. Donc, ce texte nous met aussi en garde contre la tentation, vous avez lu comme moi, de retrancher une partie de cette parole que l'apôtre a reçue de Dieu. Même si la portion que nous serons tentés de retrancher serait petite, le prophète Jean nous défend de le faire. Même si certaines paroles ne nous conviennent pas, nous avons le devoir de garder toute cette parole, l'ensemble de cette révélation. Cet avertissement fait écho à l'enseignement de Jésus dans le sermon sur la montagne, où Jésus nous dit qu'il n'est pas là pour abolir la loi, c'est-à-dire la Torah, les cinq premiers livres de notre Bible, ce que les Juifs appelaient la Torah, mais il est là pour l'accomplir. Et voilà ce qu'il dit dans Matthieu 5, versets 18 à 19. Je vous le déclare, c'est la vérité. Aussi longtemps que le ciel et la terre dureront, ni la plus petite lettre, ni le plus petit détail ne seront supprimés de la loi, et cela jusqu'à la fin de toute chose. C'est pourquoi celui qui écarte même le plus petit des commandements et enseigne aux autres de faire le même, cela sera le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui l'applique et qui enseigne aux autres à faire de même sera grand dans le royaume des cieux. Donc Jésus ne s'est pas positionné au départ contre la loi, contre le texte inspiré. Vous savez bien qu'au moment où vivaient Jésus et les apôtres, il n'y avait pas le Nouveau Testament, il n'y avait pas de Bible. Ce qu'ils avaient, c'était la Torah, c'était des manuscrits, c'était des textes recopiés et copiés. Jésus nous dit que rien ne doit disparaître. Jésus ne s'est jamais fait l'avocat, n'a jamais été un iconoclaste, quelqu'un qui veut tout changer, tout casser, un révolutionnaire. Par contre, il s'est fait le défenseur de la parole que Moïse avait reçue, la Torah. Et non seulement il s'en fait le défenseur, mais il dit qu'il faut veiller à bien l'appliquer et à enseigner aux autres à faire de même. Celui-là qui garde cette parole, Jésus dit qu'il sera grand dans le royaume des cieux. Donc nous avons, frères et sœurs, un devoir de garder sa parole. Bien sûr, Jésus va donner de la Torah, de la loi, une portée que les Juifs ne connaissaient pas à ce moment-là. Vous avez entendu qu'il a été dit ceci et cela, mais moi je vous dis que celui qui dit raca ou une insulte à quelqu'un, finalement, est tout autant coupable qu'un meurtrier. Vous avez entendu dire que tu ne commettras pas d'adultère, mais moi je vous dis, Matthieu 5, verset 28, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc, Jésus ne se fait pas le révolutionnaire de la loi qui veut tout casser, il s'en fait plutôt celui qui en montre vraiment les aspects les plus profonds, en soulevant les motivations cachées, secrètes, honteuses des hommes, c'est-à-dire le péché de l'homme. Et il est venu, lui, pour accomplir la loi, lui le seul juste. Tous ceux qui placent désormais leur foi en lui sont déclarés justes devant Dieu, couverts de sa justice, et donc tenus de suivre sa parole et de la garder fidèlement. Ça, c'est un défi aujourd'hui. Aujourd'hui, on a beaucoup besoin de changement. Il faut toujours des nouveautés. Il faut toujours proposer quelque chose de nouveau. Il faut que les choses évoluent, changent vite. Et donc, on est dans ce monde-là. Il ne faut pas penser qu'on en est immunisé complètement. Les gens aiment la nouveauté, aiment les choses qui changent. Pourquoi rester toujours? Pourquoi demeurer là? Alors, le Seigneur, lui, bien sûr, nous demande d'être attentif. Tout n'est pas mauvais dans ce monde, mais il nous demande de garder sa parole, d'être fidèle. Ailleurs, Jésus étend cette recommandation à l'ensemble de l'Ancien Testament, pas que à la Torah, c'est-à-dire les cinq premiers livres. Ainsi, dans Luc 24, versets 25 à 27, il dit, Jésus leur dit, « Gens sans intelligence, que vous êtes lents à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ainsi avant d'entrer dans sa gloire ? Puis il leur expliqua ce qui était dit à son sujet dans l'ensemble des Écritures. En commençant par les livres de Moïse, c'est la Torah, hein, c'est ce que les Juifs appellent la loi, les cinq premiers livres. Donc il commence par dire tout ce qui le concerne dans ces cinq premiers livres, et en continuant par tous les livres des prophètes. Parce que les Juifs séparaient les Écritures de l'Ancien Testament en trois parties, la Torah, les Ketuvim, c'était les livres historiques, et les Nevi'im, les livres prophétiques. Donc Jésus est en train de dire, c'est pas simplement une partie de la Bible qui parle de lui, qui le concerne, c'est toute la Bible. Toute la Bible a son centre en Christ. En Jésus est le oui et l'amen de Corinthiens 1. En Jésus est le oui et l'amen, en lui s'accomplissent toutes les prophéties. L'ensemble de la révélation biblique, donc, elle a une cohérence interne, puisqu'elle a pour centre la révélation du Messie, Jésus de Nazareth. C'est ce que Jésus d'ailleurs dit, vous savez, aux pèlerins d'Emmaüs, là. Il leur expliqua ce qui était dit à son sujet dans Luc 24, dans l'ensemble des Écritures, notamment dans les prophètes. Ailleurs, l'apôtre Pierre dit ceci aussi dans 1 Pierre 1, 10 à 12. Les prophètes ont fait des recherches et des investigations au sujet de ce salut, la bonne nouvelle, l'évangile, et ils ont prophétisé à propos du don que Dieu vous destinait. Ces prophètes, donc, les prophètes inspirés des Écritures. Et ils s'efforçaient donc de découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications données par l'Esprit de Christ. Car cet Esprit, présent en eux, vous entendez bien, l'Esprit de Christ était présent dans les prophètes écrivains, l'Esprit de Christ présent en eux annonçait d'avance les souffrances que le Christ devait subir et la gloire qui serait la sienne ensuite. Dieu révéla aux prophètes que le message dont ils étaient chargés n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous. Ce message vous a été communiqué maintenant par les prédicateurs de l'Évangile, qui en ont parlé avec la puissance du Saint-Esprit envoyé du ciel, et les anges eux-mêmes désirent le connaître. Oh, dis donc, Si les anges désirent connaître cette parole extraordinaire, combien plus forte raison nous devons nous y attacher notre cœur, notre intelligence et nos forces. Aimer le Seigneur Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force et de toute notre âme, c'est s'attacher à sa parole, c'est la garder précieusement contre notre cœur. Rappelez-vous le psalmiste, ce qu'il dit au psaume 119, quand il dit « Je serre ta parole contre mon cœur ». Je crois que c'est le psaume 119, verset 11. « Je serre ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi ». Ta parole est la vérité, Jésus a dit dans Jean 17, 17, sanctifie-les par ta parole. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. La parole a ce pouvoir, si nous y accordons toute la foi, toute notre énergie, nos intérêts, elle a cette force de sanctifier nos vies, de changer nos cœurs, de toucher notre pensée, afin que notre pensée soit en adéquation au diapason de celle de Dieu, puisqu'elle est la parole de Dieu. Donc, il y a une cohérence interne, je disais tout à l'heure, dans la révélation, dont le centre est le Christ, Jésus-Christ et son œuvre. Cette cohérence pointe donc vers la révélation du Christ. Et cette cohérence de l'ensemble des Écritures, elle est une preuve de l'autorité divine des textes bibliques. Moi, j'ai lu plusieurs textes religieux d'autres religions, notamment le Coran. J'ai voulu savoir exactement de quoi il en était pour pas dire n'importe quoi. J'ai pris des notes et tout ça. Et j'avoue que je n'ai pas trouvé la cohérence que j'ai trouvée dans les Écritures. Il y a vraiment un fil conducteur dans les Écritures. Quand vous lisez la Bible, vous dites, mais comment se fait-il, comment est-ce possible que des hommes éloignés dans l'espace et dans le temps surtout, de cultures assez différentes, puissent avoir cette cohérence de pensée? Ça, c'est une preuve vraiment de l'autorité des Écritures et de la nécessité donc d'y attacher notre cœur. Donc il y a une cohérence. Et c'est la raison pour laquelle nous devons accorder aux Écritures une grande considération et leur porter toute notre attention. Notre texte, toujours de l'apôtre Pierre, qui va dans ce sens, de Pierre 1, 19 à 21, « Ainsi, nous nous fions encore plus au message des prophètes. Vous ferez bien d'y prêter attention. Il est pareil à une lampe, le messager des prophètes, il est pareil à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour paraisse et que l'étoile du matin illumine nos cœurs. Avant tout, sachez bien ceci, personne ne peut interpréter de lui-même une prophétie de l'Écriture, car aucune prophétie n'est jamais issue de la seule volonté humaine. Mais c'est parce que le Saint-Esprit les pousser que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Ce qui est intéressant dans ce texte, en complément de 2 Timothée 3,16 où il est dit que toute écriture est inspirée de Dieu, c'est que là, dans ce texte de Pierre, nous voyons que c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui a conduit les prophètes sans altérer leur personnalité, mais qui les a conduits à parler de la part de Dieu et à mettre par écrit sans qu'il y ait une altération entre le moment où ils ont été inspirés et le moment où ils ont couché par écrit la pensée qu'ils avaient reçue de Dieu. Parce qu'on pourrait dire, oui, ils sont inspirés, comme on dit d'un artiste, qu'il est inspiré. Il est inspiré. On sent vraiment, il y a du souffle. D'accord. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'autre? Est-ce que réellement la retranscription de la pensée de Dieu par les prophètes est restée sans altération au moment où ils l'ont mis par écrit, où ils l'ont couché sur les manuscrits? Eh bien oui, puisque le texte nous dit qu'ils ont été poussés à écrire. Le Saint-Esprit les poussait. Ces hommes ont parlé de la part de Dieu. Ils n'ont pas fait que parler. Ils ont retranscrit aussi la pensée qu'ils avaient reçue de Dieu. Donc il y a une continuité entre la pensée et l'aspect matériel des Écritures. Et c'est pour cela qu'en tant qu'évangélique, nous croyons à l'inspiration des Écritures. Des Écritures, pas de la pensée qui serait dans les Écritures. Mais nous croyons réellement que ce que nous lisons reflète la pensée de Dieu. Alors, ça nécessite bien sûr une interprétation. Et souvent les gens croient que les évangéliques, parce qu'ils croiraient à l'inspiration des Écritures, prendraient tout littéralement. Bien sûr que non. Il y a des textes qui sont des textes poétiques qu'il faut interpréter selon le genre poétique de cette littérature-là. Quand Jésus dit qu'il est une porte, on comprend bien qu'il n'est pas en bois. Ça semble tomber sous le sens, mais inconsciemment, vous faites cette interprétation-là parce que vous savez que c'est une métaphore, une allégorie, ou une parabole, par exemple. Donc, nous croyons vraiment que ce texte est inspiré de Dieu et c'est pour cela que nous y attachons notre cœur, notre intelligence et que nous cherchons à la pratiquer. L'apôtre Pierre, dans ce texte que nous venons de lire, met en évidence donc la cohérence, lui aussi, du message biblique, le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il dit que le message que les prophètes nous ont transmis est maintenant annoncé par les prédicateurs de l'Évangile. Donc il y a une cohérence. Et que ces prédicateurs parlent selon la puissance du Saint-Esprit envoyé du ciel et que les anges eux-mêmes désirent le connaître. Alors là, dans ce texte-là, quand il parle de ceux qui prêchent cet Évangile-là, il fait allusion aux apôtres, bien sûr, qui eux-mêmes ont reçu cette parole et l'ont transcrite par écrit. L'apôtre Paul, en ouvrant son œuvre magistrale de l'Épître aux Romains, affirme lui aussi que le message de l'Évangile dont il est porteur n'est pas un message nouveau. Que le message de l'Évangile, donc, est celui qui était déjà annoncé dans l'Ancien Testament. Lisons, regardons ensemble ce texte, Romains 1, chapitre 1, versets 1 à 4. De la part de Paul, donc c'est la salutation de Paul au début de son épître, de sa lettre, de la part de Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre et choisi par Dieu pour annoncer l'Évangile. Dieu avait promis cet Évangile depuis longtemps. Je souligne ça. Il avait promis cet Évangile depuis longtemps dans les Saintes Écritures. Donc là, il fait allusion à l'Ancien Testament, par l'intermédiaire de ses prophètes. L'apôtre précise donc, l'apôtre Paul, que cet évangile promis depuis longtemps est le même que celui qu'il annonce. Et il le dit lui-même dans la suite du texte de Romains 1, cet évangile se rapporte à son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. En tant qu'homme, il était descendant du roi David, mais selon l'Esprit Saint, il a été manifesté Fils de Dieu avec puissance quand il a été ressuscité. À partir donc de ces considérations sur l'unité de la Bible, Ancien et Nouveau Testament, nous comprenons mieux l'exhortation de l'apôtre Jean dans le texte d'Apocalypse que nous avons lu en introduction. Versets 18 et 19 du texte que nous avons lu. « Moi, je l'atteste. » Apocalypse 22, 18, 19. « Moi, je l'atteste. À quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. » Retrancher, c'est tout aussi grave qu'ajouter. En tant que protestants évangéliques, nous sommes prompts souvent à critiquer ceux qui ajouteraient, et nous avons raison de critiquer, c'est-à-dire ceux qui rajouteraient des nouvelles révélations. Souvent les sectes, je dirais, dites chrétiennes, ont la Bible, mais elles ont en plus un livre, le livre de leurs prophètes, qui viendrait donner la bonne interprétation de la Bible. Donc, elle rajoute quelque chose. Dans la tradition catholique, la tradition, eh bien, vient aussi se juxtaposer, compléter en quelque sorte, ou en tout cas donner la juste interprétation du texte biblique, mais cette tradition, si elle n'a pas exactement la même autorité que les Écritures, a quand même une autorité qui est pour certains quasi égale d'ailleurs dans la pratique. Donc il y a un rajout. Il y a un rajout, c'est ce qui permet, malheureusement, leur permet de rajouter des dogmes, des doctrines qui ne sont pas bibliques. On est d'accord et on a raison de critiquer ça. Mais est-ce que nous sommes tout autant vigilants sur la question du retranchement ? Là, on parle de l'ajout. Sommes-nous tout autant préoccupés par le danger opposé consistant à faire subir aux Écritures une cure d'amincissement, voire parfois un jeûne drastique ? Je suis toujours surpris de voir comment certains abordent le texte biblique un peu comme un puzzle composé de versets choisis selon leur convenance, en collant des petits bouts pour en faire une théologie de briques et de brocs. Des pièces rapportées les unes aux autres, tel verset sorti de son contexte ou coupé de tout le reste, en écartant d'autres textes, d'autres bouts de la Bible qui peut-être ne leur conviennent pas. Moi, j'appelle ça une forme de retranchement. Théoriquement, ils disent oui, c'est, je crois à la Bible, mais en réalité, dans la pratique, ben, ils ne lisent qu'une partie et toujours la même partie parfois. Comme je disais tout à l'heure, parfois cette cure d'amincissement devient une grève de la faim. Et Jean nous met en garde de ne rien, dans le texte que nous avons lu, de ne rien retrancher au message inspiré. On peut retrancher subtilement en relativisant certains textes, en les déclarant optionnels, dépassés. Ce danger est plus évident pour les textes relevant du comportement du disciple, c'est-à-dire de son éthique. Il est plus facile d'être dans un accord théorique, cela va de soi, oui, la Bible est inspirée, oui, bien sûr, il faut aimer son prochain, d'accord. Des textes théoriques, des doctrines qui sont, auxquelles on adhère, qui relèvent plus parfois d'un positionnement intellectuel plutôt que d'un accord qui nous engagerait. Le prophète Jean, dans ce texte d'Apocalypse, parlant en sa qualité de prophète, d'ailleurs, comme ceux de l'Ancien Testament, lui ne fait pas de différence entre des propositions doctrinales, théologiques, si vous préférez, par exemple, sur la nature du Christ. Il ne fait pas de différence entre ces propositions-là. Quand il dit que Jésus, par exemple, est le rejeton de David, il est en train de dire qu'il est donc de la descendance de David, et donc que le prophète Samuel, qui lui avait prophétisé, Nathan plutôt, qui lui avait prophétisé que de sa descendance viendrait le Messie, avait bien raison, et qu'il faut donc attacher notre cœur à cette proposition théologique. Mais en même temps, on voit bien que dans les versets 11 et 16 du texte que nous avons lu, il y a une alternance entre des injonctions, des avertissements, des conseils, de l'ordre de l'éthique, du comportement du croyant et de la doctrine. Les deux vont de pair. Mauvaise doctrine peut entraîner une mauvaise pratique, comme une mauvaise pratique peut avoir des racines lié à une mauvaise compréhension de Dieu, de l'Évangile et de Jésus-Christ. On l'a vu dans mon dernier message sur le légalisme, par exemple. Au verset 11, nous avons une mise en garde sur le comportement. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est sale se salisse encore, que le juste fasse encore la justice, et que celui qui est saint soit encore consacré, c'est-à-dire saint. Saint, ça veut dire pas qu'on est parfait, ça veut dire qu'on est mis à part pour vivre pour Dieu. Donc là, on a une mise en garde sur le comportement. Versets suivants, 12 et 13, l'apôtre Jean nous enjoint d'être vigilants aussi sur notre connaissance et notre compréhension de Jésus. Qui est Jésus ? Vous savez, beaucoup de gens dans le monde se réclament de Jésus. Les témoins de Jéhovah parlent de Jésus. Il y a des livres qui sont écrits sur Jésus. Si vous allez dans des magasins, je ne vais pas citer les noms pour ne pas faire de publicité, vous verrez les rayonnages de développement personnel. Il y a beaucoup de textes qui nous parlent de l'évangile, des valeurs chrétiennes et tout ça, mais ce n'est pas forcément le même Jésus que celui auquel nous croyons. Versets 12 et 13, une vigilance sur la personne de Jésus. « Je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense. » Donc c'est le Seigneur. Il est parlé du retour du Seigneur. « Pour rendre à chacun selon son œuvre, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, c'est moi. » Donc là, on a une déclaration théologique de qui est Jésus. Il n'est pas simplement un homme. Il est celui qui a toujours existé. Il est parlé de la préexistence. Il est parlé aussi de sa fidélité, de sa permanence, le commencement et la fin. Donc de celui qui viendra, qui reviendra, mais il est la fin, c'est-à-dire la fin dans le sens qu'il amènera toute chose à son aboutissement et donc au jugement, ce qu'on appelle le jugement. Donc là, il y a beaucoup de choses, l'alpha et l'oméga. Donc il est l'alpha et l'oméga, c'est les premières et dernières lettres de l'alphabet grec. Donc dans les Écritures, il est celui qui donne sa cohérence à toutes les Écritures. Donc là, on a dans ces deux versets-là un concentré de christologie, c'est-à-dire de qui est Jésus-Christ. Donc s'attacher à la christologie, c'est-à-dire à comprendre quelle est l'articulation entre l'humanité et la divinité de Jésus, comprendre qu'est-ce que c'est que l'incarnation, c'est pas simplement du bouillon de cervelle, c'est pas simplement pour se faire plaisir intellectuellement, c'est que ça a une incidence sur notre compréhension de l'évangile. Parce que si Jésus, par exemple, n'est pas d'origine divine, si on ne croit pas réellement que la parole s'est faite chair et qu'elle existait de toute éternité, qu'elle a pris réellement chair, qu'elle n'était pas simplement une apparence, mais que réellement, eh bien, si on ne croit pas tout ça, quel est le sens des souffrances et de la croix ? Quel sens peut-on donner à la croix, aux souffrances du Christ, si par exemple, il n'est pas réellement pleinement homme ? Comment peut-on dire donc que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris ? Et s'il n'est pas pleinement Dieu, comment peut-on être sûr que son sacrifice a une valeur absolue et que son salut est parfait ? Alors bien sûr, parfois ça peut nous faire perdre pied parce qu'on se dit « mais oh, punaise, oui c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça ». Mais le Seigneur nous montre dans ce texte-là que nous devons être vigilants aussi sur ce que nous croyons réellement, comment nous l'appréhendons et puis comment nous le vivons. Je continue pour parler de cette alternance, versets 14 et 15, une mise en garde sur le comportement. Heureux ceux qui lavent leur robe pour avoir droit à l'arbre de la vie. Alors, bon, là, il y a beaucoup d'images. Pourquoi une robe ? Parce que dans le vocabulaire de Jean, tous les chrétiens sont des prêtres et des sacrificateurs pour Dieu, notre Père, vous le savez. Et les sacrificateurs avaient des vêtements, des robes de consécration, des robes liturgiques en quelque sorte. Et donc, ils ont lavé leurs robes, ils l'ont lavé, comment ? Au travers du sang de Jésus, ça aussi. Comment peut-on laver un vêtement au travers du sang ? Et bien sûr, tout là, on a l'image, bien sûr, de la purification de nos péchés par le sacrifice du Christ. Donc, ces versets 14 et 15 nous parlent là vraiment du fait que nous sommes justifiés devant Dieu et désormais nous avons droit à l'arbre de la vie. Nous sommes considérés comme des communiants avec Dieu. L'arbre de vie, ça ramène bien sûr à la Genèse. Bon. Les versets qui suivent, versets 16 et 17, de nouveau une mise en garde sur la personne, une vigilance sur la façon dont nous comprenons la personne de Jésus. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous apporter ce témoignage au sujet des églises. C'est moi qui suis le rejeton de la postérité de David. Donc, la promesse faite par Nathan dans le livre de Samuel au roi David, que désormais, une lumière brillera toujours au sein d'Israël, sur le trône d'Israël. Et bien sûr, cette lumière, c'est le Messie, c'est Jésus, c'est l'étoile resplendissante du matin. Et du coup, l'Esprit et la mariée disent « Viens », que celui qui entend dise « Viens », que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Alors, Jean est le témoin choisi par Dieu pour retranscrire donc une révélation inspirée, on l'a compris. Au verset 6, l'ange confirme Jean en tant que prophète, choisi par Dieu pour écrire ce qu'il a vu et entendu. Il me dit « Ces paroles sont certaines et vraies. Le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses esclaves ce qui doit arriver bientôt. » Donc l'ange place l'apôtre Jean au même niveau que les prophètes. C'est le Dieu des esprits des prophètes qui est avec lui. Et au verset 9 de notre texte, l'ange lui dit « Je suis ton compagnon et celui de tes frères les prophètes. » Et au verset 10, l'ange lui demande de ne pas tenir secrète les paroles de la prophétie de ce livre, c'est-à-dire de les écrire. Et donc on voit bien, là encore une fois, l'action miraculeuse de Dieu pour que cette inspiration, qui est au départ une inspiration spirituelle dans la pensée de l'apôtre, il est dit au début du livre de l'Apocalypse qu'il est ravi, c'est-à-dire qu'il est transporté, et donc il est dans un état inspiré, eh bien à la fin on voit que pour que cette parole qu'il a reçue dans son esprit reste, eh bien, il doit la mettre par écrit. Donc Jean n'écrit pas de sa propre initiative, mais parce qu'il a été visité par l'Esprit de Dieu, il prononce une parole d'autorité, d'où l'avertissement pour ceux qui seraient tentés de relativiser en retranchant ou en ajoutant quoi que ce soit. Alors, de ce fait, partant de cette autorité que Dieu lui donne, Jean avertit solennellement. On ne peut pas impunément traiter la révélation de Dieu à la légère. Et comme Dieu juge selon la juste mesure de la vérité, que sa parole est la vérité, retrancher une part de cette vérité aurait pour conséquence d'être soi-même retranché du bénéfice des promesses liées à cette vérité. De même qu'ajouter une part à cette vérité aurait pour conséquence d'être ajouté soi-même à la liste de ceux qui n'ont pas de part aux promesses liées à cette vérité. Les fléaux décrits dans l'Apocalypse pour ceux qui retranchent, ou l'impossibilité de prendre part aux bénédictions de l'arbre de vie et de la citoyenneté de la Jérusalem nouvelle, la Jérusalem céleste, équivaut à la même chose. Être privé de la présence de Dieu et de l'agneau dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Il faut donc choisir, non pas entre retrancher ou ajouter, mais entre garder les paroles de ce livre ou les délaisser. Les garder ou les délaisser. Deux fois, le verbe téréo en grec, qui veut dire garder, mais avec un principe actif. C'est un participe présent actif, donc c'est quelque chose qui se vit tout au long de notre vie et tout au long de l'Église. Heureux les gardants, faudrait dire ça. Heureux celui qui garde, on traduit comme ça, mais en réalité c'est un participe présent. Donc on pourrait traduire heureux, au verset 7, le gardant les paroles de la prophétie de ce livre. Donc c'est pas une action, c'est plus qu'une action, c'est réellement un état. Il est parlé là d'une fidélité du Seigneur. Alors moi, je vais vous donner un témoignage. Ça va vous aider peut-être à vous concentrer, parce que je sens que peut-être je risque de vous saouler. Mais avant de me convertir, j'étais ado, j'avais quel âge ? Je devais avoir 15 ans, peut-être 16 maximum, je ne sais pas. Un jour, j'ai pris une Bible que mes parents m'avaient offerte, une photo de famille. Et je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris, je suis allé au bord du Tarn, on habitait à Albi à l'époque, j'ai pris cette Bible, je l'ai déchirée et je l'ai jetée dans le Tarn. Pareil pour la photo de famille. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris, mais à mon avis, ce n'est pas le Seigneur qui m'a inspiré de faire ça. Ça, c'est sûr. Bon, aujourd'hui, je suis là devant vous. Je n'oserais pas dire que je suis un gardien du temple, mais je pense que le Seigneur m'a conduit dans ma conversion à me retourner complètement pour que je sois celui que je suis aujourd'hui avec, bien sûr, mes imperfections, mes défauts, mes péchés, mais ma volonté de rester jusqu'à la fin de ma vie, jusqu'à mon dernier souffle, fidèle à sa parole, la gardant et vous exhortant à la garder vous-même jusqu'à mon dernier souffle. Gardez sa parole, frères et sœurs. Gardez sa parole. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il y a des gens qui commencent très fort hein, dans la vie chrétienne. Il faut voir comment ils vont finir. Gardez sa parole. Gardez-la, frères et sœurs. Alors, deux fois donc ce verbe garder. Je vais peut-être raccourcir. Au verset 9, l'ange dit qu'il est compagnon de service de Jean, verset 9. Et il associe ce compagnonnage à celui des prophètes, frères spirituels de Jean, ainsi qu'à tous ceux qui gardent ses paroles. C'est-à-dire ceux qui, de façon active et consciente, s'attachent fidèlement aux paroles de Jésus. Il y a donc un lien étroit qui unit le disciple de Jésus-Christ à sa parole, puisque l'ange veut, souhaite que non seulement Jean, mais ceux à qui Jean va enseigner ou écrire cette parole-là, proclamer cette parole-là, il veut que eux aussi soient dans ce compagnonnage. Comment pourrait-il en être autrement ? Pouvons-nous séparer la parole du maître de Jésus et le maître lui-même ? Lui-même a dit que ses paroles sont les paroles du Père. Il ne dit que ce qu'il entend dire du Père. Il ne fait que ce qu'il voit faire du Père. Pourrions-nous être fidèles au maître ? Et en même temps, infidèle à sa parole. Ça n'a pas de sens. Vous êtes d'accord avec moi? Et si nous sommes fidèles à sa parole, comment serait-il possible que notre maître soit infidèle à sa parole et aux promesses contenues dans cette parole? Ne nous gardera-t-il pas dans sa parole, lui qui est la parole faite chair? Il nous a fait la promesse que ses brebis ont la capacité d'entendre distinctement sa voix. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Elles connaissent ma voix, elles ne suivront pas quelqu'un d'autre. Elles ne suivront pas la parole d'un mercenaire. En effet, la voix du Seigneur est bien distincte de toutes les autres voix. On ne peut les confondre. D'autre part, il nous a promis de marcher devant nous pour le suivre par le fait que nous reconnaîtrions sa voix. Elles me suivront. Et jamais elles ne suivront une voix étrangère. Parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Mes brebis entendent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Donc le texte de Jean rappelle plusieurs fois l'imminence du retour de Jésus. Versets 7, 10, 12, 17 et 20. Et Jean nous encourage d'ailleurs à cette rencontre. L'esprit et l'épouse disent « Viens, que celui qui entend cette parole, encore une fois, que celui qui entend cette parole dise « Viens », verset 17. Cela suppose qu'il y a une connivence étroite entre celui qui doit venir et ceux qui entendent sa parole. Ils ont la responsabilité de prêter attention à cette parole dès maintenant, pas seulement quand elle retentira à leurs oreilles, le jour de quand la trompette sonnera et que Jésus viendra nous chercher. Le risque serait qu'en négligeant la parole de Jésus, nous en oublions le son de sa voix. Vous savez que quand on perd de vue des gens, on en oublie parfois le son de leur voix. Il pourrait en être pareil du Seigneur si nous courions le risque de négliger sa parole. Vous savez comme moi que certaines voix nous sont familières. Elles nous sont familières tant que nous les entendons régulièrement. Il est alors facile de les reconnaître. mais cela suppose une familiarité. D'où l'exhortation à entendre régulièrement ces paroles. Gardez ma parole. Conclusion, verset 7, « Je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Une prophétie, c'est une parole qui est donnée de la part de Dieu et qui a une portée divine, qui contient à la fois des avertissements et des promesses. Une promesse de bonheur et de joie. Cette promesse concerne la joie du salut, inséparable de la personne de Jésus-Christ et de sa parole. Et pour terminer, pour illustrer un peu la nécessité et l'importance de cette parole, je voudrais qu'on regarde cette image. Voilà, il y a 45 ans, dans la nuit du 18 juin 1981, Portes Ouvertes, vous connaissez donc Portes Ouvertes, nous soutenons, menait une mission secrète, 20 hommes livraient 1 million de Bibles en Chine par bateau. C'était risqué. Ils ont pris des risques, 20 millions, vous imaginez. Et cette opération a été couronnée de succès, puisqu'il n'y a pas eu... Il y a eu très peu de pertes, mais pour dire que cette parole, ces gens-là ont soif de cette parole. Il y a des pays, vous savez comme moi, où il est dangereux de se promener avec une Bible, des pays où on est persécuté à cause du simple fait de posséder une Bible ou de la lire ou de la faire lire à d'autres personnes. Et nous avons à notre disposition tellement d'outils pour la méditer, tellement de traductions, d'outils aussi théologiques pour la comprendre. Alors, n'oublions pas ce devoir que nous avons de garder sa parole fidèlement.